VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Nouakchott, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Niger, l'opposition a refusé de participer aujourd'hui à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale élue le 21 février lors d'un scrutin à la proportionnelle régionale couplé au premier tour des présidentielles. Aucun des 53 députés de l'opposition qui avaient boycotté dimanche le second tour de la présidentielle remporté par le président sortant Mahamadou Issoufou ne s'est présenté au palais des congrès qui remplace provisoirement l'Assemblée nationale. Le président Issoufou dispose d'une large majorité parlementaire. Sa coalition est remporté 118 des 171 sièges. Il a proposé hier à l'opposition de se joindre à un gouvernement d'union nationale. Pas de réponse des opposants jusqu'à présent. Va-t-on donc vers un blocage politique au Niger? Pour une analyse, notre envoyé spécial Bagassi Koura s'est entretenu avec le professeur Yahya Issoufou, historien et politologue à l'université de Niamey.
Ce second tour est pour moi un cas d'école. Je crois qu'il restera dans les annales de l'histoire politique du Niger parce que jamais une élection n'a été aussi sujette à controverse que celle-ci. Puisque d'un côté, on ne reconnaît pas tout en participant, ce qui est le cas de l'opposition, et de l'autre côté, on fait tout pour que l'élection se tienne et qu'on remporte ces élections. Donc le gagnant est connu d'avance, le perdant est connu d'avance, donc il n'y avait vraiment pas d'enjeu en ce qui concerne ce second tour, si ce n'est que juste la confirmation de ce que tout le monde savait.
Le candidat du pouvoir a gagné et l'opposition qui n'a pas participé ne reconnaît pas les résultats. Quelle est la prochaine étape pour vous?
La prochaine étape va être aussi peut-être une exécution d'un cas d'école, puisque l'opposition a dit à l'avance qu'elle ne reconnaîtrait pas les instants issus de ce scrutin, qu'elle ne reconnaîtrait même pas le scrutin. Et avant cela, l'opposition a dit qu'elle conteste la Cour constitutionnelle, qu'elle conteste la CENI. Finalement, l'opposition conteste tout.
Est-ce que le Niger va plonger dans la crise politique?
Je ne pense pas, puisque le pouvoir voulait coûte que coûte que les scrutins soient organisés. À partir du moment où les scrutins sont organisés, on ne pourra pas parler de vide institutionnel. Maintenant, est-ce qu'on peut diriger un pays comme le Niger en occultant l'opposition?
Est-ce que le Niger a reculé sur le plan démocratique?
Complètement. C'est un recul incommensurable. Je pense que la ligne de démarcation, la cassure, elle est nette et c'est la mauvaise organisation de ce scrutin, c'est le forcing et surtout l'impréparation qui les a caractérisés. Plus maintenant, c'est que les observateurs, les uns et les autres, ont constaté des fraudes assez massives. Je crois que c'est tout cela, c'est tout ce cocktail qui a produit des élections beaucoup plus de division que de rassemblement et qui ont fait deux camps diamétralement opposés et dont les revendications sont aux antipodes les unes des autres.
Le professeur Yahya Issoufou, historien et politologue à l'université de Niamey au Niger. Guinée-Bissau, l'instabilité politique est en train de bloquer le soutien promis par les donateurs internationaux au pays lors de la table ronde de Bruxelles l'année dernière. Des détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
L'information a été donnée par le ministre de l'économie et des finances de la Guinée-Bissau, Gérald Martins, faisant allusion au bilan de la première année après la table ronde organisée en Bruxelles en mars 2015. Gérald Martins a regretté le malentendu qui a causé l'inaction du gouvernement en faveur des engagements avec le peuple bissau-guinéen. Mais Martins a dit qu'en raison des efforts remarquables de l'exécutif, la productivité du gouvernement ne peut pas être considérée comme négative. 50% de performance est la classification donnée par le ministre de l'économie et des finances parce qu'on n'a pas reçu la promesse faite par la moitié des partenaires. En ce qui concerne les partenaires de grands projets qui attendent de voir plus clairement ce qui se passera dans le pays avec cette instabilité, si les différends au Parlement sont résolus et que le programme du gouvernement élu en 2014 présenté à la réunion des donateurs reste en vigueur, cela peut faciliter pour aller à un rythme beaucoup plus rapide, a déclaré Gérald Martins. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, élection au Congo-Brazzaville. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans de pouvoir à la tête du pays, a été réélu au premier tour de l'élection présidentielle de dimanche avec 60,39% des voix. Selon les résultats publiés très tôt aujourd'hui par la CENI, la Commission électorale nationale, mais contesté par ses deux principaux concurrents. Le point avec Anna Botson.
L'annonce officielle de la victoire de M. Sassou Nguesso a été faite à la télévision nationale par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, peu après 3h30 du matin, alors que le pays était privé de télécommunications depuis plus de 4 jours. M. Sassou Nguesso a estimé que le peuple congolais avait pris son destin en main et jugé que la campagne électorale avait donné lieu à un débat démocratique très ouvert. À Brazzaville, dans les quartiers sud de la ville, acquis à l'opposition, la majeure partie des boutiques sont restées fermées toute la journée de mercredi, après un déploiement massif de soldats et policiers lourdement armés dans la nuit de mardi à mercredi. Unis par un pacte anti-Sassou, 5 candidats, dont M. Kolela et le général Mokoko, ont créé une commission technique électorale chargée de surveiller le scrutin et de compiler les résultats des bureaux de vote sur la base de leurs procès-verbaux. Sur la base de ces données, l'opposition dit avoir la certitude de l'élimination de M. Sassou Nguesso et qu'un deuxième tour devrait avoir lieu.
En Guinée équatoriale, le FOD, Front de l'opposition démocratique, appelle à boycotter l'élection présidentielle du 24 avril en estimant que toutes les conditions sont réunies pour des fraudes. Le point avec John Lyndon.
Le FOD appelle ses militants et la population à ne pas aller voter car cette élection est anticonstitutionnelle. Le président Théodore Obiang-Nguema ne respecte ni la constitution ni les lois, a déclaré un de ses leaders, Guillermo Nguema-Ela, lors d'une conférence de presse à Malabo. Ce front de l'opposition équato-guinéenne regroupe la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition à avoir une représentation au Parlement avec un député et un sénateur. L'Union populaire, la Force démocratique républicaine et le Mouvement pour l'autodétermination de l'île de Bioko. L'opposition justifie son appel au boycott par l'absence de commission électorale indépendante, de recensement biométrique et la mainmise absolue du parti au pouvoir sur les médias d'État. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans aucune explication.
La lutte contre le terrorisme en Afrique maintenant. Nouvel appui sécuritaire des États-Unis au Cameroun sous la forme de matériel sophistiqué de surveillance des aéroports et des frontières. Une assistance qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les insurgés nigérians de Boko Haram. Martin Mbarga Ngele, le délégué général camerounais à la Sûreté nationale, a souligné l'importance de l'appui américain.
Les États-Unis d'Amérique vont installer dans nos aéroports et postes frontières un système d'identification comparatif et d'évaluation individuelle sécurisé, PICES, qui permettra de mieux contrôler les mouvements des personnes et des biens qui traversent nos frontières.
Les États-Unis avaient précédemment fourni à l'armée camerounaise des équipements militaires ainsi que des conseillers pour appuyer la lutte contre les militants de Boko Haram. Le Cameroun fait face aux insurgés nigériens depuis 2013, lorsqu'ils ont commencé à attaquer les localités camerounaises proches de la frontière nigériane. On passe à l'actualité hors d'Afrique. Belgique, attentat à Bruxelles. Une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur et de la Justice des pays de l'Union européenne est convoquée aujourd'hui dans la capitale belge. Après les attaques, le gouvernement fédéral belge, pour sa part, a appelé à une nouvelle minute de silence dans tout le pays en hommage aux victimes ce jeudi et à l'occasion du troisième jour de deuil national. Par ailleurs, la police traque 2 suspects en fuite qui n'ont pas été identifiés. Conflit en Syrie, le groupe État islamique a ordonné aux quelques 15 000 civils encore présents à Palmyre de fuir cette ville syrienne que les forces pro-régime cherchent à reprendre. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Moscou. Il doit discuter ce jeudi avec le président russe Vladimir Poutine de la transition politique en Syrie. Washington souhaite le départ du président syrien Bachar al-Assad et le Kremlin estime, lui, que seuls les électeurs syriens ont le droit de décider de son sort. Et pour terminer, pour la première fois, un président des États-Unis rend hommage aux victimes de la dictature militaire en Argentine. Le président Barack Obama va se recueillir aujourd'hui au Parc de la Mémoire à Buenos Aires. Il est en visite en Argentine. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.